On est tous des flambeaux allumés au milieu d'une génération qui se perd. C'est pour ça que l'œuvre de Christ au milieu de nous est tellement, tellement donc précieuse. Alors soyons conscients que nous tous, nous sommes sous la table d'opération du Saint-Esprit. Et Dieu est en train d'agir en nous, Dieu est en train d'opérer en nous. Alors, soyons sensibles les uns aux autres. Des fois, on peut voir quelqu'un qui n'a pas le sourire et on peut faire un commentaire comme quoi, mais souris, Jésus t'aime. Oui, mais tu ne sais pas ce que je vis en ce moment. Tu ne sais pas donc l'épreuve que je traverse. Tu ne sais pas comment le Saint-Esprit m'a réveillé à 3h du matin pour me dire qu'il voulait creuser au plus profond de mon être. Hein? Donc, soyons sensibles les uns aux autres, mais toujours donc une parole d'encouragement, une parole donc qui va édifier, une parole qui va contribuer donc à l'édification. Alors ce matin, dans Philippiens 3, on vient de chanter « Afin de connaître Christ ». Philippiens chapitre 3, verset 10. Donc c'est Paul qui va décrire que, voilà, je vais lire à partir donc du verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien. Quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Dites avec moi, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ, dites avec moi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Connaître la puissance de sa résurrection. Connaître la puissance de sa résurrection. C'est vrai que récemment, donc, on était tous conscients qu'il y a eu plusieurs départs. Donc, moi-même, donc, j'ai vécu le départ de mon beau-frère. Il y a d'autres qui ont vécu d'autres départs dans l'année. Donc, des êtres chers. Quelques-uns, donc, sont partis auprès du Seigneur. Après la mort de mon beau-frère, j'ai un neveu par mariage, donc dont le beau-frère est décédé à 54 ans. Il avait la forme, aucun problème, crise cardiaque en 2 heures, il est parti. Et Victor me disait, mais tu sais, il ne voulait jamais qu'on lui parle de Dieu. Il ne voulait jamais. Il dit, je suis triste, j'ai fait l'enterrement, je pouvais offrir un espoir par rapport à ce que Jésus peut consoler dans ceux qui étaient là, mais quant à lui, il ne voulait jamais accepter Christ. Alors donc, il a entendu la parole parce que Victor lui avait témoigné, mais c'est sûr que, voilà, on sait que la parole de Dieu ne revient pas sans avoir produit un effet chez ceux qui l'entendent, selon Ésaïe chapitre 55, mais en même temps, tant que nous ne voyons pas la personne dire « Je crois en Jésus-Christ et je suis justifié en lui et je suis une nouvelle créature », on ne peut pas non plus donner un faux espoir. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois de prêcher donc à des enterrements des personnes qui vraisemblablement n'étaient pas dans la foi, mais qui voulaient qu'un pasteur fasse l'enterrement. Donc, et là, on peut offrir que la paix de Dieu au milieu de la tempête. Mais pour nous les chrétiens, nous avons en nous l'Esprit de Christ. Alléluia. Alors, Paul disait, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Car ma détermination consiste à connaître Dieu et la puissance qui émane de sa résurrection. Alors, en Romains chapitre 8, verset 10 et verset 11, il est dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, est-ce que c'est une réalité, oui ou non? L'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Quelles sont les paroles de réconfort que nous donnons à quelqu'un donc qui pourrait être triste parce que leur être cher est parti auprès du Seigneur? Regardons à 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Donc, vous allez dire, mais Marc, on dirait que c'est donc des obsèques auxquelles tu es en train de prêcher. Ce n'est pas grave. Il faut que nous, on soit conscients de comment consoler ceux qui ont un espoir. Bien sûr, à ceux qui n'ont pas d'espoir, on peut leur offrir la paix au milieu de la tempête. Vous savez, moi, j'ai assisté à beaucoup d'enterrements, beaucoup. Au Mexique, c'était flagrant. Quand on était en train de baisser le cercueil, donc dans la terre, des fois la femme se jetait sur le cercueil, même s'il était déjà presque posé, en montrant le désespoir qu'elle avait. Les enfants, les pleurs, bon, dans chaque culture, il y a une expression différente. Mais alors, moi, j'ai vu le désespoir des personnes qui savaient qu'il n'y avait pas d'espoir, qui savaient qu'ils étaient perdus à jamais. J'ai vu le désespoir donc des personnes qui ne connaissaient pas Jésus. Et c'est ça qui nous donne de la compassion, parce qu'on veut que tout le monde arrive à la repentance. Qu'est-ce que la Bible dit hein, 2 Pierre chapitre 3, verset 10, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Nous voulons qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. » Alors chaque personne que nous voyons dans le métro, chaque personne que nous voyons dans la rue, un jour, ils vont ressusciter. Vont-ils ressusciter pour la vie éternelle? Vont-ils ressusciter pour la condamnation et le jugement éternel? C'est à nous aussi, donc des hommes et des femmes qui sont porteurs de vie, de nous rendre compte que nous avons un espoir parce que nous avons un message de résurrection. Un jour, nous allons ressusciter. Alléluia. Parce que le même esprit qui habite en Christ est en nous. Mais en Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 13, nous dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Alors moi je vous dis, si tout d'un coup vous voyez des tombes s'ouvrir et des gens commencer à voler, sachez qu'eux ils vont d'abord et après nous on les suivra. Hein? On les suivra. Mais il dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc tous ceux qui sont morts avant nous, tous ceux qui sont morts, donc nos parents, oncles, des tantes, des grands-parents, etc., qui connaissaient le Seigneur, donc des personnes donc, qui ont eu vraiment la foi, donc tous ceux qui sont morts avant nous vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants, s'il se fait qu'on est vivant lors de l'avènement de Christ, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors dites avec moi ces paroles, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La puissance qui émane de sa résurrection. Dieu est à l'œuvre en nous. Il nous a ressuscités à une nouveauté de vie. Lorsque quelqu'un prend le baptême d'eau, nous savons qu'il rentre dans l'eau. Il ne rentre pas pêcheur mouillé et sort pêcheur sec. Hein? Pardon, pêcheur sec et pêcheur mouillé. Mais il rentre dans l'eau dans un symbole de participer, de la participation qu'il a déjà eue donc à la mort de Christ, à sa résurrection. Heureusement donc, à un moment donné, ils émergent. Pourquoi? Parce que ça aussi, c'est le symbole donc de ressusciter à une nouveauté de vie. On l'a tous expérimenté. Pourquoi? Parce que la résurrection nous délivre de la mort spirituelle. La Bible dit en Éphésiens chapitre 2 que nous étions tous des enfants de colère comme les autres. On était tous condamnés à un jugement éternel comme les autres. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité et nous aujourd'hui, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Donc la résurrection de Jésus nous délivre de la mort spirituelle. La résurrection de Jésus aussi nous montre qu'il restaure le souffle de vie. À l'origine, c'est lui qui a donné le souffle de vie à Adam et Ève. À l'origine, c'est lui qui a donné l'inspiration. Qu'est-ce que c'est l'inspiration? Donner le souffle à. Souffler vers l'intérieur. Adam a reçu le souffle de vie de Dieu. D'accord? Mais aussi Adam a péché. Et quand Adam a péché, il a perdu ce souffle de vie. Il a perdu ce souffle spirituel. Donc, qu'est-ce qui manquait dans sa vie à partir du moment qu'il est tombé dans le péché? Une sagesse divine, une connaissance et un amour de Dieu. La Bible dit que par le premier Adam, nous sommes tous tombés sous le coup de la loi du péché. Mais par le deuxième Adam, qu'est-ce qu'il est dit? Nous sommes aujourd'hui ressuscités. Romains chapitre 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La justification qui donne la vie, le souffle de vie, s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, mais même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous vous rappelez quand Jésus rencontre les disciples après sa résurrection? C'est intéressant de noter en Jean chapitre 20 et verset 22, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Vous vous rappelez quand il avait dit à Pierre, Pierre, l'ennemi va venir, il va te cribler comme le froment, tu vas te sentir le pire parce que Pierre, tu vas me renier. Et Pierre a dit, non, 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 loin de moi, etc. Jésus lui dit, Pierre, ne t'inquiète pas, j'ai prié pour toi et quand tu reviendras, va vers tes frères. Va vers tes frères, apporte-leur la vie. Alors il leur dit, il souffle sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. La résurrection restaure le souffle de vie. La résurrection, la puissance de la résurrection aussi, c'est notre justification et notre droiture. Il nous a rendus justes, alléluia, en lui. En Romains chapitre 4 et verset 23, il dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qui est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, et il est ressuscité pour notre justification. Qu'est-ce que la justification? La justification, c'est intéressant en anglais, c'est « just as if I've never sinned ». Juste comme si je n'avais jamais commis un péché. Mon péché a été effacé. Donc mon dossier a été purifié. Donc, pourquoi? Parce qu'il m'a justifié. Quand il est venu dans ma vie, il m'a donné le désir de le suivre dans sa sainteté. Il m'a donné le désir d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant lui. Et il m'a donné le désir de marcher dans la justification et dans sa droiture. Nous qui croyons en Christ et en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Sauveur, lequel a été livré pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. En Romains chapitre 5 et verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Il dit que si nous souffrons ici avec lui, on régnera avec lui aussi. La Bible dit aussi que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Ceux qui veulent choisir la voie de la justification et la droiture et la sanctification, certainement seront vus comme des êtres bizarres au milieu de ce monde. Alors c'est à nous de vivre donc cette puissance et sa résurrection. C'est à nous de vivre tous les jours dans cette justification qu'il a obtenue pour nous. De nous inviter à marcher dans la droiture, de marcher dans le chemin étroit qui mène à la vie. Vous savez, la Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 21, que lui qui n'avait jamais commis un péché, il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qui est notre justice? Qui vient à notre défense quand le diable vient nous attaquer? À quel moment sortons-nous? Donc, les armes spirituelles qui se trouvent en Éphésiens chapitre 6. Et on prend donc dans ces armes et on présente, c'est la justice de Christ qui est notre défense. Nous marchons dans la justification et nous sommes déclarés justes par lui. Pas parfaits, mais justes et dignes d'être des adorateurs en esprit et en vérité, grâce à sa résurrection. Grâce à sa résurrection, il a une espérance vivante. Si je pourrais vous montrer des vidéos de l'enterrement de mon beau-frère, alors on allait vers le cimetière, on avait des mariachis qui étaient au milieu de nous, on chantait, on se réjouissait. Ma sœur, elle était derrière donc le corbillard, elle marchait donc avec sa famille et tout le monde chantait. Et arrivé donc au lieu de l'enterrement, on a encore chanté pendant 40 minutes et les mariachis étaient là. C'était une réjouissance. On s'est dit mais comment est-ce que les chrétiens peuvent avoir cette attitude face à la mort? Comment est-ce qu'on peut chanter? Il y avait beaucoup de gens inconvertis du village qui étaient là et qui étaient dans l'étonnement. C'était intéressant parce qu'à un moment donné, le maire de la ville, du village dans lequel j'ai grandi, il y avait 2500 personnes à l'époque en 1960, aujourd'hui il y a 92 000. Et le maire de la ville est venu aux obsèques. Il a pris la parole pendant 15 minutes. Et il dit, ça fait 2 heures que je suis là, je vous vois chanter, je vous vois donc parler de lui avec joie. C'est quelqu'un qui connaissait beaucoup, beaucoup des blagues chrétiennes. Hein? Des blagues. Donc, c'était quelqu'un qui était toujours dans la joie. On a raconté des blagues, il disait, etc. Tout le monde riait. C'est-à-dire, on était vraiment dans une attitude de dire, mais on se réjouit, il est avec le Seigneur. C'est pour cela que nous prêchons. Il est avec le Seigneur, il a une espérance vivante. Alléluia. Et donc, ce maire de la ville, au bout d'une quinzaine de minutes, il dit, mais moi, je ne suis pas chrétien. Il dit, bon, je vais à l'église de temps en temps, mais j'aimerais bien faire partie de vous. Hein. Ça m'étonne. Donc, comme vous voyez la mort, oui, il y a des pleurs peut-être, oui, il y a des larmes qui ruissellent, mais il y a une espérance vivante. C'est ça qui fait la différence. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les enterrements. Hein. Pourquoi? Parce qu'on annonçait la vie. On annonçait la vie. Et donc, je l'ai déjà dit, mais je vais vous dire comment on faisait. On arrivait donc pour enterrer la personne qu'on connaissait, qu'on allait donc voilà enterrer. Et au Mexique, il creusait 120 fosses adultes et 80 fosses pour enfants. Sachant qu'à la fin de la journée, toutes ces fosses allaient être donc remplies. Et alors ce qu'on faisait, moi je l'ai fait à plusieurs reprises, je suis allé à tellement d'enterrements dans ma vie, mais alors là au Mexique, c'était vraiment, on s'est régalé. Pourquoi? Parce qu'on était là. Il y avait le cercueil, Donc avant qu'on ensevelisse la personne, on chantait, on prenait la guitare, on parlait de l'espoir en Christ, etc. Et entre-temps, il y avait des cortèges autres qui arrivaient, mais sans pasteur, sans prêtre, sans rien, en pleurs. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On s'est tourné un petit peu, on chantait plus fort, on prêchait plus fort. Et donc, et à maintes reprises, ça m'est arrivé, après avoir enterré notre être cher, j'enterrais celui-là, et j'enterrais celui-là, et on annonçait la vie, et Christ était glorifié, et les gens se sont convertis. Moi, je me rappelle un jeune homme qui est venu me saluer lors de la mort de mon père, en 85. Il était à l'aéroport, et il vient me voir, il me dit, Marc, tu te rappelles quand je me suis converti à l'enterrement de Ricardo? Je dis, mais bien sûr, je suis pasteur des jeunes aujourd'hui. Donc c'était dans un moment comme un enterrement que Dieu a touché son cœur, qui était meurtri, qui était dans le deuil, mais c'est là où Dieu a porté l'espérance. Alors pour nous chrétiens, 1 Pierre chapitre 3, verset 5, qu'est-ce qu'il est dit ici? Il faut voir la mort d'une manière, mais la Bible dit que nos jours sont comptés. Soyons lucides. Avant qu'aucun d'eux existât, la Bible dit dans le psaume 139, sont inscrits les jours qui nous sont destinés. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, si moi je dois partir dans 5 minutes, mais je partirai, pas grave. C'est-à-dire pourquoi? Parce que je vis pour Christ. On n'est pas parfait, on est dans l'humilité devant le Seigneur, on est dans le prisme devant le Seigneur, mais nos jours sont comptés par lui. 1 Pierre 1, 3, 5, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a changé notre nature. On avait une nature de péché, aujourd'hui nous sommes participants de sa nature divine. Il nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. C'est la résurrection de Jésus, la puissance de sa résurrection, qui nous donne à nous une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Les enfants de Dieu vont se manifester. L'Église de Jésus-Christ va se manifester. Nous aimerions penser qu'il y aura un grand réveil dans lequel des pays entiers vont se convertir. J'aimerais bien le croire, mais il faut que ça soit un par un, une âme après l'autre, un individu après l'autre qui capitule face à l'amour de Dieu. Cette espérance vivante nous nourrit. Cette espérance vivante nous donne vraiment donc une raison de vivre. En Romains 15, là où on commence en parlant de comment on s'accueille, comme Christ nous a accueillis. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas se complaire en nous-mêmes. Si des fois tu te trouves face à des personnes qui sont faibles dans la foi, parce qu'ils sont nouveau-nés dans la foi, parce que c'est des personnes donc, qui commencent à peine à marcher avec Dieu, rappelle-toi quand toi tu étais un petit bébé spirituel. Rappelle-toi des personnes qui t'ont entouré. Rappelle-toi des personnes qui ont supporté tes faiblesses. Alors que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Mais le verset 13, après avoir parlé de comment on s'accueille, comme Christ nous a accueillis, afin qu'on puisse tous glorifier Dieu d'une seule bouche, d'un seul cœur, il dit au verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Quelle est notre espérance? Notre espérance, ici-bas, on a une espérance chaque jour parce qu'on vit de ses promesses. Mais l'espérance vivante qui nous attend, c'est la résurrection. C'est être avec Christ pour toujours. C'est être avec notre Sauveur. C'est de passer l'éternité avec lui. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas cette assurance. Moi, j'ai demandé à des témoins de Jéhovah, à des mormons, à des catholiques, à des musulmans, est-ce que vous êtes sûr que vous irez au ciel après votre mort? Ah, mais qui pourrait dire ça? Quelle prétention! Oui, on peut dire qu'on ira au ciel après notre mort. Oui, on dira que notre âme et notre esprit ne mourront jamais. On sera avec lui pour toujours. Mais les personnes n'osent pas dire qu'ils sont sûrs parce qu'ils n'ont pas ce message. nous avons ce message. Nous avons donc cette parole. Regardez avec moi en Romains chapitre 5. Encore il est dit, étant donc justifiés par la foi. Romains 5. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus nous nous glorifions même des afflictions. Hein, vous êtes bizarre. Hein? Vous vous réjouissez dans vos afflictions? Vous vous réjouissez dans vos épreuves? C'est ça que la Bible nous dit. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un pourrait-il mourir pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est mort pour nous. Et dans sa mort, il nous a réconciliés avec le Père. Et c'est ça qui nous donne la base pour dire qu'on a une espérance vivante en nous. Une espérance vivante. L'année dernière, quand j'avais été au Mexique, j'avais été à l'école biblique. Et il y avait des pasteurs qui avaient été tués dans les parages, pas très loin. Et alors, ma sœur m'a dit, Marc, il y a des jeunes qui sont dans cette classe, une quarantaine de jeunes, qui se préparent à être martyrs. Alors moi, j'étais ému. J'allais parler à des personnes qui avaient lu Hébreux chapitre 11, qui avait lu de ceux qui n'avaient pas choisi d'être délivrés de la mort pour la cause de Christ. J'avais lu, ils avaient lu des personnes qui, dont le monde n'était pas digne. Et là, je me trouvais face à des jeunes filles et des jeunes hommes, des jeunes femmes qui disaient qu'ils étaient prêts à aller dans les coins les plus perdus du Mexique, à les coins dangereux, et qu'ils savaient que pour eux vivre, c'est Christ. Mourir, c'était un gain. Alors j'ai commencé à parler et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pleuré pendant 5 minutes. Et la présence du Seigneur est descendue. Et il a eu un jeune homme qui s'est levé et qui a dit, qui est prêt à mourir pour Christ? Moi, j'ai rien dit. Et les 40 se sont levés. Je suis prêt à mourir pour Christ. Mes frères et sœurs, si nous voulons vivre pieusement, nous serons persécutés. Vous êtes persécutés sur votre lieu de travail parfois? Vous êtes persécutés par vos familles. Vous êtes persécutés par vos voisins. Pourquoi? Parce que nous voulons prêcher Christ et lui crucifié et lui ressuscité. Et c'est lui qui nous donne une espérance vivante. Mais aussi par sa résurrection, nous avons un renouvellement quotidien qui a lieu en nous. Regardons en 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Rappelez-vous, si vous lisez 2 Corinthiens 4, c'est un chapitre extraordinaire, vous allez voir que c'est au travers des vases brisés que la lumière de Christ brille. Verset 3 nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. En qui le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de Christ. Et l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Et il y a une autre version en français qui dit, de peur qu'ils ne se convertissent. Le diable fera tout pour garder voilé l'évangile devant les personnes. Mais il nous a placé, Jésus, en tant que ses serviteurs. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous, nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance et la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor de la lumière de Christ dans des vases de terre, afin que cette gloire soit attribuée, cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ensuite, il parle de toutes sortes d'épreuves. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Amen. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus, pourtant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Verset 15 nous dit, « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions des grâces d'un plus grand nombre. » Nous sommes des flambeaux allumés au milieu d'une génération qui se perd. Nous sommes donc les éléments donc dénominateurs qui vont faire que la grâce se multiplie et que lorsque la grâce se multiplie, ça fasse abonder à la gloire de Dieu les actions des grâces d'un plus grand nombre. Qui est en train de venir à Jésus par nos paroles, par notre témoignage. Et pourtant, nous sommes chers. Nous vivons par la foi. Des fois, nous devons faire face à des maladies. Des fois, nous devons faire face à des tragédies. Des fois, nous devons faire face à des accidents. Mais notre esprit se renouvelle chaque jour. Regardez avec moi au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Comment ? Lorsque nous lisons la parole, lorsque nous prions, lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous jeûnons, c'est sûr et certain, si en nous approchant de lui, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Est-ce que vous sentez que votre homme intérieur se renouvelle? Est-ce que vous sentez des fois que vous avez la pêche, comme vous ne devriez pas l'avoir? Est-ce que vous sentez des fois que vous êtes vraiment partant pour beaucoup, sachant donc que votre homme intérieur est renouvelé? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. J'ai parlé avec Georgette mercredi dernier, 97 ans. Elle est enfin obligée de partir de sa maison à Dieppe. Mais elle dit, mais... j'attends Jésus, elle a une pêche, vous ne pouvez pas imaginer. Hein. Elle a une pêche, elle a une joie, on a chanté dans son chant préféré. C'est lequel, Karim? 10 000 raisons pour lesquelles je peux le louer. Béni Dieu, mon âme. Alors là, on le chante à chaque fois qu'on la voit. Et alors, le jour viendra quand je n'aurai plus de force, etc. Mais elle me dit, mais je désire être avec le Seigneur, mais elle est renouvelée de jour en jour, le Seigneur la fortifie. Pourquoi? Parce qu'elle sait, que son corps se détériore, mais elle sait qu'elle aura un corps glorifié, qu'elle sera dans la présence de Dieu. Alors nous savons en effet, vers chapitre 5, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Rappelez-vous, en Apocalypse, il dit, si tu es nu, regarde, viens, demande-moi, je vais te donner un habit. Si tu as soifé, je vais donc te donner de l'eau à boire, etc. Alors il dit, pourvu qu'on n'est pas, donc qu'on soit vêtu et pas nu. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Mais nous, on n'a rien à craindre, parce que le mal qu'on a fait dans notre corps et la repentance à laquelle le Saint-Esprit donc nous pousse avec amour, voilà, toutes ces choses sont réglées. Une fois pardonné, c'est effacé, c'est oublié par le sang de Jésus. Je sais qu'il y a des personnes qui disent que lorsqu'on va être devant Christ, donc le film de notre vie avant d'être chrétien et après d'être chrétien va être révélé et va être montré à tout le monde. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des bases bibliques pour dire ces choses. Pourquoi ? Parce que lorsque nous avons fait la paix avec lui, lorsque nous avons été réconciliés avec lui, ce qui nous habite, c'est une espérance vivante. Pour terminer, je vais voir 1 Corinthiens chapitre 15. C'est le chapitre de la résurrection. Vous savez, si nous ne prêchons pas la résurrection, nous sommes dans le faux. Regardez ce qui est dit, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? C'était les Sadduciens. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alors regardons maintenant le verset 50. Ce que je dis, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas hériter du royaume de Dieu. Quand nous sommes venus à Christ, notre esprit a été touché. La Bible dit en 2 Corinthiens 3, 18 que nous sommes en train d'être transformés à l'image de Dieu. Ça, c'est notre âme. Notre âme, c'est-à-dire la base de notre être, nos émotions, notre volonté, donc notre intellect qui est soumis donc, à la parole de Dieu. Notre âme est en train d'être transformée. On n'est pas parfait dans notre âme. On est en train de vivre donc, le rachat de notre âme. Le jour qu'on mourra, là, notre âme sera entièrement sauvée. Mais notre corps, c'est que lorsque la résurrection aura lieu, que notre corps sera glorifié. Alors, pour vivre la résurrection, il faut un rendez-vous avec la mort. Il faut un rendez-vous avec la mort. Si on veut ressusciter, il faut qu'on passe par la mort. Et si nous sommes vivants lors du retour de Jésus, ce n'est pas notre chair et notre sang comme nous le connaissons aujourd'hui qui va hériter le royaume de Dieu. On va être enlevé dans les airs, on sera joint à lui, mais avec un corps glorifié. Amen. Donc il dit ici au verset 50, la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Bon, Paul disait ça, donc à un moment donné, il y avait ceux qui disaient que Jésus était déjà revenu, etc. Donc Paul les mettait en garde, ne dites pas ceci, etc. Mais Paul parlait comme si Jésus allait revenir demain, ou s'il allait revenir donc des milliers d'années après. Mais ici, il nous dit, nous ne mourrons pas tous, mais c'est une chose certaine, on sera tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu que nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Connaissons la puissance de sa résurrection. Mais n'attendons pas à notre résurrection pour l'éternité avec lui, mais connaissons la puissance de sa résurrection ici-bas, afin de connaître Christ et la puissance qui émane de sa résurrection. Et qui sait, peut-être un jour, comme Jésus a dit, qu'on fera des œuvres pas plus grandes en qualité, Parce que lui, il a fait tout. Je pense que les œuvres plus grandes, c'est en quantité. Parce qu'il savait que la joie qui lui était réservée, c'était de voir la famille de Dieu, l'Église s'installer et commencer à croître. Et qu'au fil des siècles, des siècles, des siècles, oui, le nombre de disciples allait se multiplier. Et en quantité, le nombre des œuvres, des miracles allait se multiplier. Jésus a ressuscité les morts. Qui sait? Peut-être à un moment donné, Dieu te demandera qu'avec la vie de Jésus-Christ, cette vie qui émane de sa résurrection, peut-être un jour, Dieu te donnera de prier pour quelqu'un parce que tu le sens, c'est une conviction. Moi, je sais que chaque fois qu'il y a des personnes qui meurent, il y a des personnes qui veulent aller à la mort pour ressusciter. Moi, je dis, tu sais, il est parti, il est dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas un manque de foi. Un jour, mon père était en train de prêcher. Il y a une dame qui rentre dans notre église au Mexique avec un enfant, un garçon de 6 ans, qui était mort dans ses bras. Elle a dit, quelqu'un dans le bus m'a dit que si je descendais ici, mon fils serait ressuscité. Ils avaient déjà acheté le cercueil. C'est un petit cercueil pour un garçon de 6 ans. Et alors, mon père a pris cet enfant, a prié pour lui. L'enfant n'est pas ressuscité. La mère est partie en pleurant. Et en arrivant au seuil de la porte de l'église, l'enfant a ouvert les yeux. Et des années après, moi je suis allé dans cette maison et il y avait le cercueil comme témoignage. Et chaque fois que des gens rentraient chez eux, ils donnaient le témoignage. Ça a été une résurrection qui était, bon là, le Seigneur sait. Alors à cause de cette résurrection, il y a eu une quarantaine de familles qui se sont converties et une église est née. Dieu sait, Dieu sait. Mais si la puissance qui était en Christ habite en nous, il nous rend fort, il nous vivifie, il nous dit, va, accomplis mon œuvre, sois un porteur de vie. Un porteur de vie. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour porter la vie? Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays dans lesquels l'avortement continue à être légalisé, dans lesquels on veut supprimer la famille, on veut supprimer père, mère, on veut donc donner la liberté donc aux transgenres, donc aux homosexuels, etc., etc. On veut complètement écraser la vie comme Christ l'a présentée. Alors c'est à nous d'être porteurs de vie grâce à sa résurrection. Si tu vis pour lui. Si tu meurs pour lui. Soit que tu vives, soit que tu meurs, tu es au Seigneur. Amen. Pas chanter ce cœur qui dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. » Mes lendemains sont assurés. Alléluia. « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie, pour ce temps est l'éternité, je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps est l'éternité, je sais qu'il vit. Merci Seigneur pour ta résurrection. Merci pour cette résurrection qui agit en nous. Merci pour les effets de ta résurrection. C'est parce que toi tu es ressuscité, le jour est venu quand tu es monté au ciel, et ensuite le Saint-Esprit est descendu, et l'Église a vu le jour. Une des preuves, Seigneur, de ta résurrection, c'est l'existence de l'Église. L'Église, l'enfer essaiera de prévaloir contre elle, mais elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas. Seigneur, l'Église, Seigneur, qui est témoin, alléluia, témoin de ta résurrection. Quand les disciples devaient aller annoncer ta résurrection, il fallait qu'ils aient de l'hardiesse, de la puissance. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu sur eux. Et ils ont été, Seigneur, répandus comme témoins de ta résurrection. Aide-nous, Seigneur, à toujours avoir sur notre bouche ce mot, ta résurrection. Et ce que nous avons en toi par ta résurrection. Seigneur, et je te demande, Seigneur, que chacun ici soit prêt et s'assure qu'il est prêt, qu'elle est prête pour la rencontre avec le roi des rois. Au nom de Jésus, viens Seigneur, parle à nos cœurs. Tout au long de cette semaine, parle à nos cœurs Seigneur. On pensera Seigneur à des moments d'enterrement, à des moments d'obsèques. Parle à nos cœurs et dis-nous Seigneur que nous avons une parole de vie. Nous sommes porteurs de vie, alléluia. Nous sommes des messagers de paix, alléluia. Que chacun de nous Seigneur, on puisse le vivre pleinement. Et jusqu'au moment où tu nous appelles, on continuera à vivre par la foi. Jusqu'au moment de ton retour, on continuera à vivre par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Merci Seigneur. Merci pour tes promesses qui nous rassurent, qui nous donnent, Seigneur oh Dieu, une espérance vivante. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Amen.